Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Et nous voici maintenant au jeudi 18 juin 2009. Et là, nous allons voir justement...
Jésus-Christ, fondement de l'Église.
Nous parlons souvent de notre Église. Nous avons de multiples raisons d'être fiers de notre Église. Mais nous savons aussi qu'elle n'est pas parfaite. Nous avons investi une grande part de nous-mêmes dans l'Église, une part de nos talents, de notre temps, de notre énergie, de notre argent. Nous avons de bonnes raisons de la considérer comme nôtre. Cependant, en analyse finale, elle ne l'est pas. Elle appartient à Dieu. Différence essentielle.
Lisons ce qu'a déclaré le Christ lui-même en réponse à la question de savoir à qui appartenait l'Église. Et nous lirons ceci dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18.
« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. »
Cette déclaration de Christ au sujet de la pierre sur laquelle serait construite l'Église de Dieu a été diversement interprétée par un grand nombre de théologiens. Quand on prend en considération la totalité du contexte et les autres preuves bibliques, rien ne suggère que Pierre était ce rocher et qu'il aurait la charge particulière de transmettre son autorité aux futurs évêques de Rome. La confession de Pierre affirmait que le Christ était le Fils du Dieu vivant, et le rocher sur lequel Dieu a fondé son Église.
Réfléchissons maintenant au sens des autres symboles utilisés pour souligner cette même vérité, à savoir que l'Église a été fondée sur Jésus-Christ et qu'il s'agit de son Église plutôt que de la nôtre. Un premier texte que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 20.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et nous restons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 16.
De lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Et un autre texte dans l'Apocalypse, chapitre 1er, les versets 19 et 20.
Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises.
Comme tant de passages du livre de l'Apocalypse, la description de Jésus-Christ dans Apocalypse justement est remplie d'images tirées de l'Ancien Testament. Le Christ est présenté comme marchant au milieu de sept porte-lampes ou de sept chandeliers. Il est vêtu comme un grand prêtre. Cela nous rappelle aussitôt le symbolisme du porte-lampe ou du chandelier de l'ancien tabernacle qui montrait à son peuple que Dieu était présent.
Avant d'entrer dans les détails de ce qui doit arriver bientôt, le livre de l'Apocalypse s'assure de la justesse de notre perspective. Il s'agit de la révélation de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, notre grand prêtre céleste qui... loin d'être quelque divinité distante et figée, marche au milieu de son Église.
Réfléchissons maintenant. Si de façon ultime l'Église appartient à Dieu, quel est donc notre rôle? En sommes-nous les gestionnaires? Quelles responsabilités sont donc les nôtres? Sommes-nous à la hauteur de telles responsabilités? Que pourrions-nous donc améliorer? Et ainsi s'achève cette journée du jeudi 18 juin.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.